France Musique. Sous la couverture, Philippe Venturini, France Musique.
Bonjour. François Truffaut disait qu'aucun enfant ne rêvait de devenir critique de cinéma. On peut se demander si certains rêvent de devenir critique musicale. D'ailleurs, en quoi consiste ce travail? Dire j'aime ou je n'aime pas, guider un lecteur, un auditeur, un téléspectateur? Comment le devient-on? Est-ce que la critique musicale relève du journalisme, de l'exercice littéraire, de considérations esthétiques? Peut-on critiquer la critique? Pour tenter de répondre à autant de questions et à beaucoup d'autres, il fallait bien un ouvrage titanesque, celui qu'a entrepris Timothée Picard, mon invité et familier de ce genre d'entreprise, en coordonnant une somme consacrée à la critique musicale. Musique classique, jazz, rock, chanson se côtoient dans un ouvrage collectif appelé à faire date et peut-être susciter des vocations. La critique musicale au XXe siècle, sous la direction de Timothée Picard, aux presses universitaires de Rennes. L'orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, dirigé par Louis Auriacon, c'était le début de Parade d'Éric Satie. Bonjour Timothée Picard.
Bonjour.
Donc vous êtes le coordonnateur de cet immense, ce pavé on peut dire, quand même quelques 1500 pages et à peu près autant de grammes, ça fait un gros livre d'un kilo et demi, j'ai pesé, quelques 120 articles, je ne sais pas combien de collaborateurs, mais...
Oui, 140, 160.
Donc c'est vraiment un énorme travail, j'imagine qu'évidemment c'est le fruit de plusieurs années de travail et de recherche.
Oui, quasiment 10 ans en fait, ouais. Depuis le moment où ce projet a été déposé et jusqu'à sa publication. En fait, c'est... c'est un projet qui est le résultat d'un intérêt personnel et d'un contexte favorable. L'intérêt personnel, c'est que moi, j'ai fait de la critique musicale, en fait, pendant que mes premières années d'universitaire, j'ai fait 10 ans de critique musicale et je me suis posé cette question de la critique, évidemment, qu'on se pose tous. Dans la presse écrite, tout à fait. C'était avant l'essor d'Internet et au début de l'essor d'Internet. Musique classique, et je me posais, comme beaucoup, la question non seulement de la légitimité, mais aussi de la méthode et de l'articulation entre l'écriture et la musique. D'autant que j'étais littéraire. Et puis, en tant qu'universitaire, je me suis intéressé aussi beaucoup aux écrits de grands écrivains sur la musique. Stendhal, Baudelaire, Thomas Mann.
Suarez.
Voilà. Et là aussi, cette question de l'articulation entre l'écriture, comment parler au mieux de la musique et en même temps faire émerger des valeurs, comment produire un jugement sur elle, c'est une question qui m'a beaucoup intéressé. Et j'ai croisé une figure qui est un peu oubliée aujourd'hui, mais qui est absolument capitale, qui s'appelle Boris de Schleuser, qui a été le critique musical de la Nouvelle Revue française et un grand penseur de la musique au XXe siècle en France, et qui avait un rapport extrêmement critique dans l'approche des écrivains, des littéraires, de la musique, qui a beaucoup réfléchi cette question de savoir comment parler de la musique. Et tout d'un coup, je me suis senti donc dans une position un peu de porte-à-faux qui m'a amené à réfléchir de manière plus globale à la critique musicale. Et là, j'en viens au contexte qui était favorable. En fait, on avait très peu travaillé. La répartition des choses à l'université fait qu'il y a des angles morts. Et ce qu'on appelle la musicographie, donc les écrits sur la musique, quels qu'ils soient, et la critique musicale en particulier, fait partie de ces angles morts. Ça intéresse, c'est pas au centre des travaux des musicologues, et ça n'intéresse pas les littéraires. Donc voilà, c'était un peu un angle mort. Il y a eu des précurseurs, les travaux d'Emmanuel Rebel sur le 19e siècle, par exemple, sur Berlioz en particulier, étaient précurseurs. Sur le 20e siècle, il y avait quasiment rien. Et ça coïncidait par ailleurs avec le moment où justement les nouvelles technologies ont permis d'accéder beaucoup plus facilement à des fonds, numériser, faire des recherches grâce à ces nouvelles technologies. Et donc ça a favorisé tout d'un coup l'essor de ce champ de recherche et la reconnaissance de ce champ de recherche. Et ce projet donc a été vraiment a accompagné ce champ de recherche au moment où il a commencé à se développer, en essayant de mettre en réseau, de manière à la fois en France et de manière internationale, tous les chercheurs qui s'intéressaient à ce sujet. Il y avait aussi des gens un peu précurseurs en la matière, Michel Duchesneau au Canada ou Valérie Dufour à Bruxelles. Et donc voilà, seul on peut pas aborder ce genre de travail. C'est vraiment un travail collectif que l'université rend possible. Et donc jeunes chercheurs ou chercheurs plus confirmés de toutes les disciplines travaillant sur cette problématique, on s'est rassemblés, on s'est réunis pour aborder cet objet de manière transversale à travers tout le XXe siècle, en essayant de penser ensemble dans un continuum la musique classique, le jazz, le rock, les musiques actuelles, la chanson, etc.
Oui, c'est ça, avec le même aussi parfois parallèle avec d'autres disciplines. Et on peut se poser aussi la question, vous l'avez évoqué déjà, Timothée Picard, est-ce que la critique musicale, est-ce que ça relève du champ musicologique ou du champ littéraire ou des deux, ou apparemment ni l'un ni l'autre, vous parliez d'angle mort. C'est effectivement une discipline qui commence tout juste à intéresser les universitaires.
Alors, il y a plusieurs éléments ici à évoquer. C'est que bizarrement, la cinéphilie, vous évoquez François Truffaut, repose beaucoup sur le commentaire et la critique. Enfin, évidemment, c'est au cahier du cinéma c'était le levier évidemment pour devenir cinéaste ensuite. Il y a un peu la même chose, en même temps, c'est compliqué du côté de la musique, avec une querelle très très ancienne aussi de savoir qui a le droit de s'exprimer sur la
légitimité,
musique, qui a le droit, et du coup. Et notamment la critique musicale est plutôt née du côté du journalisme, des hommes de lettres, remettant en question les compétences mêmes du musicien pour s'adresser à un grand public et parler de musique. Et donc on a cette querelle fondamentale dès la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, entre littéraire et le spécialiste, littéraire et le technicien. Et donc il y a comme ça sans cesse un conflit de légitimité, de figures qui s'opposent pour avoir le magistère du discours le mieux autorisé sur la musique. Et puis de gagner sa vie, tout simplement.
Thank you.
l'orchestre de Claude Abadie avec Boris Vian à la trompette. C'était Jazz Me Blues, Timothée Picard. J'ai choisi d'ailleurs les quatre illustrations musicales que l'on entendra aujourd'hui. Ils ont été choisies parmi la mosaïque de portraits qui figurent donc en couverture de ce livre, La critique musicale au XXe siècle, qui vient de paraître aux presses universitaires de Rennes. Boris Vian, le jazz, interdisciplinarité, avez-vous dit, Timothée Picard, justement. Est-ce qu'on peut tracer des parallèles entre, par exemple, la critique de la musique dite classique et le jazz? Est-ce que la méthodologie est la même? Est-ce que les parcours des critiques peut amener à certains parallèles ou c'est totalement différent?
Ben non, il y a des liens, très souvent il y a des liens tout simplement de personnes parce que ce sont les mêmes qui, enfin souvent ce sont les mêmes qui ont fait le lien entre les deux, qui ont commencé à pratiquer la critique de jazz à côté de la critique de la musique classique, même si parfois sont apparues des figures directement dans le champ du jazz. Et on a été dans cette attitude qui est assez fréquente en fait, consistant à chercher comment légitimer le jazz. Donc le discours sur le jazz, évidemment, jouait un rôle très très important de légitimation, mais aussi en quels termes le faire. Est-ce qu'on allait le faire en lui donnant des lettres de noblesse qui ressemblaient à celles de la musique classique ou pas? Est-ce qu'on allait en faire une espèce de contre-culture et créer une espèce d'aristocratie de la contre-culture? Cette problématique-là, en fait, dès qu'il y a un nouveau domaine musical, un nouveau langage musical, une nouvelle culture musicale qui apparaît, à chaque fois elle se pose. C'est la même chose après avec le rock, c'est la même chose avec les musiques actuelles. Il y a toujours cette dialectique entre un héritage ou c'est ce partage des figures qui sont ou des critiques de cinéma qui sont critiques de jazz. Enfin, il y a toujours un phénomène de continuité, de porosité entre la musique classique et la nouvelle musique, ou un art établi et la nouvelle musique, et puis un effet de rupture. Voilà.
Alors évidemment, totalement impossible de feuilleter les 1500 pages de ce livre en quelques minutes, mais Timothée Picard, je voudrais savoir quelles sont les directions principales que vous avez voulu suivre en assurant la coordination de cet ouvrage?
En fait, il y a quatre grandes parties. Donc, c'est possible de résumer ces perspectives à la lumière de ces quatre grandes parties. D'abord, une première partie vise à aborder directement les différentes théories et conceptions de la critique et de comparer ces théories et conceptions avec celles qui sont pratiquées dans les autres arts, donc avec le cinéma, la littérature, la peinture, etc. Donc, d'emblée, on essaie d'aborder sous un angle théorique et de voir toutes les différentes théories qui se sont établies à travers le temps, parce que tous les critiques en fait sont aussi métacritiques, c'est-à-dire qu'ils cherchent à définir leur activité critique telle qu'ils l'entendent. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est les figures, formes et genres de la critique, donc les écrivains critiques, les musiciens critiques, d'autres figures critiques, mais aussi les conflits qui a pu avoir entre elles à travers le temps et l'espace, les différentes façons d'envisager cela suivant les pays. Et puis les formes et genres, par exemple la critique de disques qui est apparue évidemment quand les technologies l'ont permis, ou la nécrologie, ou l'entretien d'artistes, toutes ces formes du journalisme musical, essayer de les penser. Ensuite, une approche par aire culturelle et géographique, donc la France et l'espace francophone, bien sûr, la Belgique, le Canada, la Suisse, mais aussi une large partie de l'espace occidental, donc avec tout un aspect dévolu aux pays de langue allemande, à l'Italie, aux pays de langue anglaise, États-Unis compris, et espace hispanophone et lusophone, Amérique du Sud compris. Et puis aussi quelques développements sur l'Europe de l'Est, la Russie. Et enfin, une dernière partie consacrée à quelque chose qui n'entrait pas du tout dans le champ de la recherche en France jusqu'à présent, qui est le jazz, le rock et les musiques actuelles.
Andrei Kasparov au piano, c'était Constance Askew in the Garden de Virgil Thompson. Timothée Picard, donc Virgil Thompson, critique et compositeur américain. Ça nous permet de justement franchir l'Atlantique et savoir comment est-ce que le phénomène est appréhendé. Il y a notamment dans ce livre, il y a un portrait d'Alex Ross, le critique du New Yorker, dont deux de ses principaux ouvrages ont été traduits en français d'ailleurs. Est-ce qu'il y a une façon justement de voir les choses complètement différentes? Est-ce que, je sais pas, si on lit un article du New York Times, c'est du Monde ou du Figaro, la façon de voir les choses à travers un compte-rendu de spectacle ou éventuellement une critique de disque, les choses vont être différentes.
Je dirais peut-être qu'aujourd'hui, les différences se sont atténuées, encore qu'aujourd'hui, on sait très bien que quand on parcourt la presse européenne, les approches, par exemple, du monde germanique ou du monde francophone sur un même objet ou la manière d'écrire, la longueur des articles, etc., peuvent être différentes, mais il y a peut-être quand même une convergence un peu internationalisée. Ce qui est intéressant, en fait, quand on étudie les différents espaces, c'est que chacun est confronté à des problématiques propres. Les États-Unis, évidemment, il y a des problématiques qui sont l'émergence, la reconnaissance, l'identification d'un art national, enfin, de lui donner les moyens d'exister dans un rapport à la fois d'un complexe d'infériorité, de supériorité par rapport à l'espace européen, avec évidemment aussi pas mal de figures qui ont émigré aux États-Unis, donc qui exportent des problématiques européennes. Et on trouve sinon comme dans d'autres pays, des figures de compositeurs qui ont joué vraiment un rôle majeur dans la compréhension de la pratique musicale de leur époque, dans l'identification de valeurs qu'ils veulent promouvoir. Bon, c'est le cas pour Copland et Thompson en particulier aux États-Unis. Évidemment, c'est le cas pour Schoenberg dans l'espace germanophone. C'est le cas pour quantité de compositeurs dans tous les espaces qui jouent un rôle très important, même si leur manière d'être critique musicale peut être très différente. Au fond, Debussy, critique musicale, est très proche d'un critique littéraire. C'est une forme très littéraire. Il invente ce double de Monsieur Croche. Il va peu parler en termes techniques, alors que d'autres, au contraire, peuvent vouloir mettre en œuvre cette compétence et ce langage technique.
Timothée Picard, est-ce qu'il y a une façon de s'adresser au public, donc lecteur ou auditeur, qui a évolué avec le temps? Je pense par exemple, alors évidemment, une des grandes figures qui est Adorno, qui avait clairement un langage et une posture élitiste. Est-ce qu'on pourrait encore envisager ça aujourd'hui?
En fait, il y a de tout à toute époque, je dirais, parce qu'il y a toujours cette tension entre la volonté, ne serait-ce que parce qu'il faut vendre du journal aussi, hein, donc pour des raisons économiques. Il y a le désir de toucher un plus large public.
D'être compris, oui, aussi.
D'être compris, d'inventer de nouvelles formes. En fait, on suit aussi l'évolution du journalisme, de nouvelles formes d'écriture, de nouvelles formes visuelles, l'apparition de photos en couleur. Donc, par exemple, des entretiens people avec des musiciens. Massenet ou autre, ça existe dès le début du XXe siècle. Et il y a aussi une tendance en réaction pour faire émerger des valeurs qui seraient opposées peut-être à ce qui serait trop galvaudé, trop... Il y a des revues d'art qui se créent, plus pointues, plus... Mais il faut dire, par exemple, que ça s'exerce très fortement aujourd'hui dans le champ de la presse rock, par exemple. Donc il y a toujours l'idée aussi de recréer peut-être une aristocratie du goût, qui est très très fort dans les musiques populaires aujourd'hui, contre des revues qui peut-être faisaient référence à un moment, mais qui seraient devenues trop grand public, qui seraient galvaudées. Donc en fait, cette question aussi de l'élitisme ou pas, elle transcende la question de musique classique, musique populaire.
Thank you. L'orchestre symphonique de São Paulo, dirigé par John Nechling, c'était le chorus numéro 2 de Villa-Lobos, Timothy Picard, donc un des compositeurs qui figure en couverture de ce livre, La critique musicale au XXe siècle. Pour terminer, quelques questions. Est-ce qu'il existe aujourd'hui un profil type du critique musical? Est-ce qu'il y a une formation? Est-ce qu'il y a un parcours? Ou aujourd'hui encore, les carrières des uns et des autres sont extrêmement diverses, extrêmement variées?
J'aurais du mal à vous répondre de manière synthétique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le journalisme musical est en crise, mais une crise féconde, certainement, où s'invente et se pense quantité de choses, notamment avec la crise de la presse papier, mais aussi le développement de la presse Internet, mais aussi l'apparition du coup de langage autre, et notamment la réapparition de l'amateur sur Internet, qui vient concurrencer le langage critique, donc qui atomise le discours critique, mais le réinvente aussi. Il y a plein de choses qui s'inventent très intéressantes aussi sur Internet.
Ça veut dire, excusez-moi, que la place accordée à la critique dans la presse est en régression?
Dans la presse papier, oui, ça c'est certain. Mais il y a d'autres espaces où elle s'invente et se réinvente. Mais enfin, c'est quand même un sujet vraiment de réflexion aujourd'hui. Au Festival d'Aix-en-Provence, on a une académie vraiment de réflexion sur le journalisme, l'état du journalisme musical aujourd'hui et sur ce qu'il va être demain, pour essayer justement de faire émerger de nouveaux talents, de nouvelles plumes dans le contexte compliqué qui est celui de la presse musicale aujourd'hui.
Mmh. Et ça, c'est un phénomène que l'on peut constaté à travers le monde.
Oui, à des degrés divers. Je pense que quand même la presse culturelle en général et musicale en particulier se porte mieux dans les pays de langue allemande, par exemple. Mais voilà, c'est variable. Et encore une fois, du côté des musiques contemporaines, beaucoup de choses s'inventent très intéressantes, dont devrait s'inspirer aussi le journalisme musical classique, dans la manière d'écrire la musique sur Internet, de mettre ça en relation avec toutes les possibilités d'augmentation d'un texte, en fait, en termes d'image, de son, de support, d'invention, d'une critique musicale 3D, je dirais, sur Internet.
Mais l'exercice de la critique ne relève pas exclusivement de l'écrit, ce qu'il y a par exemple sur notre chaîne France Musique, la tribune des critiques de disques.
Absolument. C'était encore un autre continent qu'on n'a pas trop développé dans le livre, même si on a parlé des entretiens quand ils sont convertis de la radio vers l'écrit. Mais évidemment, de toute façon, le discours critique, c'est ce qui nous fait vivre entre nous quand on va voir un spectacle, qu'on échange. Enfin, voilà, il y a la dimension orale, évidemment, joue un rôle très très important. Mais peut-être que l'époque contemporaine remet en question aussi le statut du critique professionnel. Peut-être à tort d'ailleurs. Enfin, il y a vraiment une porosité entre le statut du critique professionnel établi et puis un continuum qui va vers l'amateur, parfois celui qui réagit de manière très épidermique sur les forums ou autres.
J'aime pas.
Voilà. Et on parle de ça aussi dans le livre, justement, de toute cette remise en question des figures, des formes d'écriture, des pratiques en termes de sociologie et professionnel grâce à Internet. Ou à cause.
Très bien, merci beaucoup Timothée Picard. Je rappelle le titre du livre dont vous avez assuré la direction, cet énorme pavé, la critique musicale au XXe siècle, publié par les presses universitaires de Rennes. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Laurent Lefrançois, la technique Valérie Lavalard, attachée de production Annick Aumier. La semaine prochaine, je serai en compagnie de Pierre Brévignon et nous parlerons du groupe des 6. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, même à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.